été, Chiz 94.3 FM, à Québec.
Bord de la rive à Yarzenshaw, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Moi c'est Robert, j'aime vraiment Linux pis des kiwis des nerds.
Et oui Robert, pour citer un grand homme, l'émission la plus fruitée de la Norderie vous annonce son grand retour. Soyez des nôtres le dimanche midi pour la contre-attaque des kiwis. Sur les ondes de Chiz 94.3.
Les intellectuels déclassés, ce sont trois animateurs sérieux qui commentent l'actualité et qui, après la pause, se transforment en trois qui discutent de la culture web québécoise. La pertinence chevauchant l'absurdité. Une émission deux en un, parfaite pour égayer vos soirées les jeudis 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3 pour Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité. C'est Guillaume Bédard qui est avec vous au micro en ce lundi midi du 24 janvier 2022 et j'ai le bonheur, le plaisir et l'incroyable chance d'être en compagnie de deux jeunes gens très talentueux ici. Donc j'ai avec moi Naïmé Ramalia. Salut Naïmé, comment ça va?
Salut Guillaume, ça va bien?
Ça va très très bien et j'ai également mon collègue d'économie et politique ici même à l'Université Laval, Simon Grel. Salut Simon.
Salut, ça va?
Ça va très très bien comme je viens de le dire Naïmé. Écoute, aujourd'hui on a quand même une pas pire journée d'actualité, on va être capable de discuter ça ensemble. On a évidemment beaucoup de nouvelles par rapport à la santé, la crise de la COVID-19 qui n'est pas terminée, mais on voit quand même des débuts de déconfinement poindre à l'horizon. Cependant, pas assez de prévisibilité aux yeux de plusieurs, notamment le maire de Québec ainsi que la chef du Parti libéral du Québec. Donc, on discute de ça. On va également parler beaucoup d'économie. La Banque centrale du Canada qui devrait hausser ses taux. Quel impact ça peut avoir sur les finances des gens et particulièrement sur les finances des plus vulnérables? On va parler également d'environnement avec la hausse des normes sur le nickel, particulièrement dans le quartier de Limoilou. Ça devrait avoir un grand impact. Sol Zanetti, député de Québec solidaire pour Jean Lesage, réplique au gouvernement. Et finalement, on devrait terminer en nouvelle internationale. La crise en Ukraine qui continue à inquiéter plusieurs observateurs internationaux. Mais avant toute chose, on va commencer en chanson et en musique. On va aller écouter la nouvelle chanson des Louanges qui a sorti son album Crash cette fin de semaine. Donc, on va écouter ça. La chanson Crash featuring Corneille par les Louanges. Vous écoutez toujours Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
Si demain j'ai encore la gueule, la terre t'inquiète, le ciel va finir par se dégager. Et si le fond du Paris comme phare brille, j'élèverai mon dernier verre à votre santé. Ah, dans la foulée, à mes éclatés, l'orage va bien finir par se tasser. Je feel comme un crash test dummy. Je pressens l'accident comme on attendait Messi. À demi conscient dans le taxi, sable mouvant sous le backseat. Chez Gap Messi, je crois je perds un peu la magie. Glam life QC, est-ce que ce sera ma vie? Charmer les tantes et les neveux, les cousines et les baveux. Mais quand je rentre, le plafond de l'appart qui est sur le point de fondre en deux. Hier, j'ai séparé les eaux, aujourd'hui j'ai touché le creux.
J'ai touché le creux.
Et si demain j'ai encore la gueule, la terre t'inquiète, le ciel va finir par se dégager.
et passer la nuit au plus bas. Entre les démons et le passé, plus envie de m'expliquer. Le cœur au point d'imploser, je suis trop exposé. Jusqu'ici tout va bien, mais le prix je le connais trop bien. Donne-moi un peu de temps, que je retrouve mes yeux d'enfant. Donne-moi ce goût d'avant, tout était plus innocent. Après la pluie, vient le beau temps. Oui, mais l'orage fait du ciel ce qu'il est vraiment.
Rebonjour et rebienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez toujours Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité, en compagnie de Guillaume Bédard, Naïmé Ramalia ainsi que Simon Grel. Et on s'en va en actualité coronavirale. Naïmé, tu as pour nous les chiffres du jour.
Et oui, aujourd'hui au Québec, on recense 16 hospitalisations supplémentaires et 52 décès. Par contre, du côté des soins intensifs, on a une baisse de 10 depuis hier, ce qui nous amène à 263 aux soins intensifs.
263 personnes hospitalisées aux soins intensifs. Encore plus de 3200 personnes qui sont hospitalisées au Québec. On se rappelle qu'avec sa capacité qui est la plus basse au Canada, la plus basse de l'OCDE, de 1,865 lits d'hôpitaux par 1000 habitants du Québec, le Québec avait une capacité d'environ 700 lits COVID à travers le Québec. Eh bien, là, on est encore à 3200. On explose encore ce nombre de lits-là. Mais on voit quand même une certaine tendance, une légère, Simon, si tu regardes le graphique, une légère tendance à la baisse depuis les quelques derniers jours, même s'il y a une petite remontée aujourd'hui. Est-ce que c'est un plateau ou c'est vraiment le début de la fin? Alors, pour cette vague Omicron.
Pour ça, je pense qu'il faudrait dire qu'on est à un pic, donc on a atteint le pic. Mais là, il est bien possible qu'on reste à ce niveau actuel, alentour des 3200 hospitalisations pour plusieurs jours, voire possiblement même une semaine, donc, ou même plus. Là, malheureusement, on ne peut pas prévoir ces données-là. Par contre, au moins, il semble que les hospitalisations ont atteint un pic. Il est question juste maintenant de voir pour combien de temps nous allons rester à ce pic. Mais pour parler en plateau, là, je dirais qu'il faudrait quand même aller avec un peu de prudence pour voir. Je pense qu'on pourrait répondre à cette question possiblement d'ici une semaine.
Bon, donc on va voir. On va prendre des conseils de prudence, Simon, là-dessus, définitivement. Donc, on va attendre d'ici la fin de la semaine. On devrait effectivement savoir... idéalement un petit peu plus où est-ce qu'on s'enligne avec ces chiffres-là. Pas se faire trop d'espoir non plus. On sait qu'on n'est pas sorti du bois présentement. Et une des raisons pour lesquelles on n'est pas sorti du bois, oui, c'est ce surachalandage, ce débordement massif dans les hôpitaux, mais c'est également qu'on a perdu la capacité de tester adéquatement la population. On a trop de cas par 100 000 habitants pour notre capacité de test, pour les infrastructures qu'on a, pour le nombre d'infirmières qu'on a. Mais la bonne nouvelle qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on a 3 millions de tests rapides de plus qui devront arriver cette semaine. C'est des informations de Lilia Dussault dans la presse. Donc, c'est la troisième semaine de suite où on a 3 millions de tests rapides qui arrivent au Québec. C'est quand même vraiment pas mal. On avait 12 millions de tests rapides qui étaient attendus au Québec d'ici la fin de janvier. Donc, si tout fonctionne bien, la semaine prochaine, on va avoir les 3 derniers millions. Est-ce que c'est suffisant pour l'ensemble du Québec? Peut-être, peut-être pas. Mais on sait déjà un début, ça peut pallier au manque de tests PCR. Écoutez, vendredi dernier, on avait un article du Cyrano qui est un centre de recherche interuniversitaire qui nous apprenait qu'on avait environ 5 fois plus de cas au Québec que ce qui était détecté par test PCR. Naïmé, si tu as encore les chiffres devant toi en ce moment, je sais pas, on a eu combien de tests de personnes déclarées positives par test PCR aujourd'hui, juste par exemple?
Aujourd'hui, c'est 2807 nouveaux cas déclarés.
2807 nouveaux cas déclarés. On parle d'environ 5 fois plus de personnes qui seraient positives à la COVID-19. Donc, entre 25 et 30 000 personnes positives à la COVID-19 juste aujourd'hui au Québec. Les tests rapides sont nécessaires pour tout le monde qui en a besoin, pour tout le monde qui, par exemple, a des enfants qui sont à l'école. Parce que, on le rappelle, les cas de COVID ne sont plus déclarés dans les écoles depuis la rentrée de la semaine dernière. S'il y a des isolements dans une classe, ce n'est plus la responsabilité du ministère de l'Éducation de les comptabiliser. Ce n'est plus la responsabilité des directions d'école de les comptabiliser non plus. C'est à l'enseignant de déclarer si jamais il y a plus de 60% de sa classe qui est en isolement. À ce moment-là seulement, il va y avoir une classe de fermée. 60% d'une classe en isolement, on s'entend, c'est énorme. Si jamais tu as déjà 25-30% d'une classe qui est en isolement, les chances que le reste des enfants aient attrapé la COVID-19 ou été en contact direct avec quelqu'un qui a la COVID-19 sont grandes. On va se le dire définitivement, c'est très grand. Donc, ça fait réagir beaucoup les parents. C'est ça qu'on voit, les parents qui font des gestes de solidarité, des actes de solidarité, qui vont commencer à comptabiliser eux-mêmes les cas de COVID dans les classes après avoir tenté de répertorier les taux de CO2 qui sont d'ailleurs anormalement élevés dans la plupart des classes du Québec, toutes celles où on a installé des détecteurs de CO2, ce qui est alors qu'on sait qu'on a 70% des détecteurs qui ont été livrés et seulement 42% qui ont été installés correctement. Donc parmi ceux qui sont installés correctement, on a encore une trop grande proportion qui marque des taux beaucoup trop élevés par rapport à ce qui est supposé être la norme. Donc, imaginez ce que c'est dans les classes où ils sont même pas installés. On n'a juste aucune idée. Donc, on comprend vraiment ces parents-là d'être inquiets. Simon, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses que le ministre de l'Éducation devrait faire? Comment est-ce qu'on devrait réagir politiquement à cette situation-là quand c'est rendu les parents qui doivent prendre les décisions, qui doivent intervenir directement à l'école?
Mais certainement, ce n'est pas souhaitable. Il faut rappeler que, tu sais, il y a certaines choses qui auraient pu être faites auparavant. Il y avait, par exemple, des propositions d'installer, par exemple, des détecteurs et même des systèmes de filtration de l'air dans les écoles qui ont déjà été même chiffrés, je crois bien. Donc, maintenant, je crois qu'il serait très souhaitable pour le ministre d'entamer des démarches tout de suite pour régler cette situation. Puis également, bien qu'il faut accepter que dans peut-être une certaine mesure, l'État ne soit pas toujours en situation de crise capable d'offrir tous les services. Quand même, je crois qu'on le doit à la population du Québec d'avoir un État qui est capable de livrer des services, même quand il y a des problèmes. Donc, je crois bien que il serait avantageux pour le ministre d'entamer des démarches tout de suite, de parler en son sous-ministre, de même, parce que je rappelle, en l'état d'urgence, je crois bien que le ministre peut lancer un processus sans faire appel à d'offres. Donc, il peut tout simplement choisir un fournisseur et lui demander de signer un contrat pour installer ces infrastructures-là. Donc, je crois qu'il serait souhaitable pour le gouvernement d'entreprendre une démarche comme telle.
Oui, effectivement, même si on sait que ça pourrait mener à des problèmes d'éthique, des problèmes de collusion. On sait que ce gouvernement n'a pas été exempt de scandales liés à l'éthique. On n'a qu'à repenser au ministre Fitzgibbon et à toute l'affaire White Star Capital. Mais effectivement, s'il y a juste 400 échangeurs d'air qui ont été distribués dans les classes du Québec, alors qu'on parle d'environ 90 000 classes à la grandeur du Québec, 400 échangeurs d'air, on s'entend, c'est pas suffisant. Oui, je suis d'accord avec toi complètement. Il faudrait que le ministre commence déjà à réfléchir à ça. Et ça fait également réagir beaucoup le président de la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, Sylvain Mallette, qui dit, et on le cite directement ici dans un article de Radio-Canada, « Le gouvernement s'est désengagé. Les directions d'école aussi. Donc, les professeurs font ce que le gouvernement ne veut plus faire, c'est-à-dire informer les parents. On est rendu là en tant que société, on est rendu à un niveau où ce sont les parents qui doivent s'organiser, où on est vraiment à une gestion directement au niveau le plus local possible, la classe. Donc, c'est les parents qui vont également devoir servir de suppléant si jamais le professeur ou la professeure tombe malade. C'est les parents qui vont devoir servir de suppléant. Donc, on les comprend et ils ont tout intérêt à maintenir un niveau de surveillance très, 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 très élevé du nombre de cas dans la classe de leurs enfants. On a également des cas de personnes qui s'inquiétaient beaucoup pour les grands-parents. Comment est-ce que tu veux maintenir le contact entre le grand-parent et le petit-enfant si il n'y a aucune manière de savoir si le petit-enfant est infecté ou non? Ça peut être très, très inquiétant. On sait que les contacts intergénérationnels, c'est vraiment très important pour la santé mentale.
Mais on voit que les parents veulent prendre des précautions. Par contre, en ce moment, selon les règles, un enfant de moins de 12 ans en contact avec un cas de COVID est considéré comme un contact à risque faible ou modéré. Est-ce que c'est justifié avec la situation qu'on voit en ce moment, d'après vous?
Ben c'est ça la question qu'on sait pas, c'est que variant Omicron reste toujours plus volatile, reste toujours plus infectieux que les autres variants qu'on a connus jusqu'à date. Donc oui, c'est un contact qu'on considère entre gros guillemets moins dangereux, mais sa dangerosité, c'est surtout le fait qu'il se répand beaucoup plus vite. Donc, et surtout parmi les enfants qui, on le rappelle, sont présentement vaccinés à moins de 60%. Et c'est ça le gros problème, c'est que la vaccination chez les enfants n'a pas atteint les taux de 80-85% qui peuvent avoir été atteints chez d'autres populations. On parlait d'en haut de 95% chez les 70 ans et plus, entre autres, pour la double dose. On a uniquement le tiers environ de la population du Québec qui est vaccinée avec une triple dose. C'est encore possible de prendre des rendez-vous. Mais ça se fait très, très lentement. Pour ce qui est du 100 rendez-vous dans la capitale nationale, on a assez peu d'engouement présentement, entre autres peut-être dû à un manque de publicité. Ça n'avait pas été la campagne la plus médiatisée de tous les temps. Mais si jamais vous en voulez, il y a des doses 100 rendez-vous qui sont offertes à Exposité. Il y a des doses sans rendez-vous qui sont offertes également à la salle des Chevaliers de Colomb de l'ancienne Lorette. Et finalement, le vaccinobus devrait se déplacer vers le centre-ville de Québec, probablement pas très loin de l'Aube-Rivière, considérant que les itinérants font partie des populations particulièrement vulnérables à ce virus et qui sont parmi celles qui n'ont pas été les plus vaccinées. Pour savoir qu'est-ce qui va réussir à convaincre les non-vaccinés? Comment est-ce qu'on va améliorer le taux de vaccination du Québec? Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, devrait faire un point de presse à 15h aujourd'hui en compagnie du directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, le docteur Daniel Paré, qui est essentiellement monsieur vaccin au Québec, le docteur Paré. Donc, on va voir qu'est-ce que le docteur Carman, le docteur Paré vont nous annoncer, quelles mesures vont être mises en place. On va suivre ça avec une très grande attention pour vous. En attendant, on va regarder quelles sont les mesures qui ont déjà été annoncées. La première, celle qui fait le plus réagir, c'est l'imposition du passeport vaccinal, le code QR, dans les magasins à grande surface. Ça fait beaucoup réagir. On a un article de Roxane Trudel dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est juste allé se promener au IKEA de Boucherville, qui est un des magasins qui sont touchés. Et on a des réactions qui sont relativement mitigées parmi la population. Simon, tu as lu l'article pour nous. Comment est-ce qu'on reçoit ça du côté des commerçants, du côté des chambres de commerce, cette imposition du passeport vaccinal?
Ben, y a certainement une inquiétude par rapport à comment l'implémenter, t'sais, parce qu'il y a certains employés qui craignent, ou qui pourraient craindre, par exemple, le fait de demander le passeport vaccinal, parce qu'il peut y avoir des personnes qui n'aiment pas trop que quelqu'un lui pose la question quant à son statut de vaccination. Également,
oui, effectivement, on peut s'attendre peut-être à des réactions un peu abusives de certaines personnes.
Et je rappelle que, par exemple, à la SAQ, à la SQDC, par exemple, qu'on a implémenté la mesure, ils ont embauché des gardiens de sécurité. Ben, ici, il y a la question, est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que les grandes entreprises vont-elles être capables de faire ça ou non?
Là, oui, parce que IKEA n'a pas de gardien de sécurité normalement. Fait qu'il faudrait qu'ils sous-traitent ça. Donc, on peut penser à ça, mais c'est surtout pour les petits détaillants qu'on s'inquiète. Oui.
Surtout avec la pénurie de main-d'œuvre qu'actuellement, les petits détaillants sont plus à risque d'avoir de la difficulté à mettre en place cette mesure-là.
Et tu sais, ben, y a aussi l'inquiétude quant à. Bon. Est-ce qu'on va se conformer parce qu'on veut rester ouvert ou non, etc.? Parce que c'est sûr qu'il faut rester ouvert pour ces entreprises, sinon elles auront énormément de difficultés. Mais également, elles peuvent subir des conséquences, on va au moins dire des inconvénients importants quant, par exemple, aux gestions de la personnelle, comme tu le disais, ou bien quant, par exemple, les coûts de leurs opérations. Et puis également, il y a une question de l'efficacité. Est-il vraiment efficace d'exiger le passeport vaccinal? C'est également une grande question.
Oui, c'est une grande question et c'est une question à laquelle on a des avis qui sont partagés. D'abord, on a Roxane Borges da Silva, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, qui nous dit, et on la cite directement, « Dans les espaces clos, on n'a aucune certitude que la ventilation est adéquate. Les personnes non vaccinées sont beaucoup plus à risque de développer des symptômes graves. Les masques de procédure ne sont pas parfaits pour filtrer l'air qu'on respire. » Et donc, pour protéger les personnes non vaccinées, Mme Borges da Silva, elle est en faveur, justement, de cette application du pass vaccinal. Alors que pour Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM, et on le cite encore une fois directement, je ne suis pas sûr que si ça aura tant d'impact au niveau de la transmission en tant que telle. Je ne crois que c'est une mesure qui se veut plus punitive envers ceux qui sont pas vaccinés. Donc, que c'est une mesure qui soit vraiment faite pour encourager à la vaccination plutôt que pour être une mesure de protection en tant que telle. Donc, c'est vraiment ça, les opinions du côté scientifique. Est-ce que ça va fonctionner? Ben, peut-être, mais plus probablement de manière indirect que de manière très, très, très directe pour réduire la transmission communautaire, réduire le nombre de cas par jour. Même si le nombre de cas par jour, on ne l'a pas présentement, on a des estimations parce qu'on le rappelle qu'on n'a toujours pas suffisamment de tests PCR. Ça n'empêche pas le gouvernement de s'apprêter à donner le feu vert pour la reprise des activités sportives dès le 31 janvier. C'est des informations qui nous sont rapportées par Tommy Chouinard, Denis Lessard et Maïs Maïssa Ferrat, tous trois journalistes à la presse. Donc, on parle également de permettre la réouverture des salles à manger, des restaurants, et de permettre des rassemblements limités dans les maisons, parce qu'on rappelle que théoriquement, depuis le 31 décembre dernier, il est interdit de se rassembler dans les domiciles, si ce n'est que pour aller voir sa bulle familiale. Donc, c'est les seuls rassemblements intérieurs dans les domiciles privés qui sont autorisés par le gouvernement du Québec. Cette mesure-là, qui est d'ailleurs la mesure la moins respectée selon le sondage Crop la presse de la semaine dernière. Cette mesure-là pourrait potentiellement sauter, pourrait être loussée. Donc, c'est des discussions qui sont présentement en cours à la santé publique. On va voir comment ça va se passer. On va voir comment est-ce que ça va être justifié, ces assouplissements-là. Surtout, avec les chiffres qu'on a en main, les chiffres qu'on a aujourd'hui, tu le disais plus tôt dans l'émission, Simon, on n'est vraiment pas sûr que ce soit un pic ou un plateau. Combien de temps est-ce qu'on va rester dans ces situations sanitaires-là? C'est ça la grande question. Et c'est ça qui va pousser la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, à demander plus de prévisibilité. Simon, qu'est-ce que tu penses qui la pousse à aller dans cette direction-là?
Ben, je pense qu'il est très difficile pour la population tout court, mais surtout à, par exemple, les restaurateurs ou certaines entreprises, ou par exemple dans le milieu de la culture, de ne pas savoir ce qui va se passer en 2 semaines. Ben, si on avait un plan où on disait, par exemple, ben, à tel ou tel niveau d'hospitalisation ou tel niveau d'infection, etc., on assouplit telle ou telle mesure, ça sera clair. Donc, il y aura de la prévisibilité. Je pense que le plus grand défi, qui est justement soulevé par Mme Anglade, c'est le fait qu'on n'a pas de prévisibilité. Et je crois qu'en effet, une prévisibilité pourrait rendre les mesures plus légitimes et donc pourrait encourager le public à plus suivre les mesures. Parce qu'il y a quand même un certain décrochage qu'on a remarqué selon le sondage justement dont tu parlais auparavant. Et il faut remarquer que peut-être le fait d'avoir de la prévisibilité pourrait aider à encourager les gens à encore tenir un tout petit peu plus pour qu'on puisse régler la 5e vague.
Oui, effectivement. Cependant, on se rappelle que Mme Anglade a claqué la semaine dernière la porte des réunions de tous les chefs de parti représentés à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est très critiqué du côté de l'attaché de presse du ministre de la Santé du Québec, Marjorie Côté-Boileau, qui nous dit, et on la cite directement, « Créer une nouvelle structure à stade-ci ne ferait qu'alourdir les choses. Dominique Anglade nous accuse de gérer par fermeture, mais nous n'avons pas entendu de sa part ce qu'elle aurait fait pour freiner l'explosion exponentielle des cas en décembre dernier. Soyons sérieux. Si le Parti libéral cherche à faire des propositions au gouvernement, c'est à se demander pourquoi sa chef n'a pas été présente lors de la rencontre de vendredi dernier pour le faire directement. » Donc, c'est des attaques qui sont assez directes, Naïmé, de la Coalition Avenir Québec envers Mme Anglade. Donc, est-ce que on se défile du côté de la CAQ?
Bien, c'est certain que la principale raison pour laquelle elle n'était pas là, c'était justement là, pour un peu défier les mesures actuelles, défier le manque de prévisibilité. En même temps, ce qu'elle propose, c'est le programme COVID-19, qui en effet serait probablement difficile à implémenter là, à ce temps-ci dans la pandémie. C'est sûr que ce que je vois, c'est un petit peu plus là, la tiraillade un peu des deux côtés. Là. Chacun veut faire valoir son point, mais à savoir s'il y en a un qui le fait mieux que l'autre, là, c'est pas à moi de se prononcer aujourd'hui.
Effectivement, on va terminer avec le maire de Québec, Bruno Marchand, qui lui aussi demande plus de prévisibilité. Il demande un plan de la part du gouvernement du Québec. On le cite directement. C'est Jérémy Bernier du Journal de Québec qui a recueilli ses propos. « On a besoin d'un plan. On est rendu là. Les gens ont fondamentalement besoin de prévisibilité, de savoir quand les choses vont arriver. Je comprends que la santé publique est hésitante, mais qu'elle veut pas faire de faux espoirs. Mais la tendance populaire actuellement, c'est qu'on a besoin d'avoir de l'air. Donc ça, c'est les paroles du maire de la ville de Québec, Bruno Marchand, qui dit, ben écoutez, pour réouvrir l'économie, pour réouvrir le secteur de la culture, on a besoin d'un plan, on a besoin de savoir ce qui s'en vient. Directement, il dit, que ce soit un système de couleurs ou un calendrier, il faut qu'on sache ce qu'est la perspective de temps qu'on a encore à endurer avant le déconfinement graduel. Donc, on va voir qu'est-ce que le gouvernement va répondre à ça. On s'attend probablement à des annonces lors du point de presse de 15 heures du ministre délégué à la santé et aux services sociaux, le docteur Carman, ainsi que du directeur de la campagne de vaccination. Donc ça, c'est vraiment à suivre. Pour l'instant, on va prendre une petite pause publicitaire et musicale. Vous écoutez toujours un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey Pat! Qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent toutes nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Ah, donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les lundis 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Allez déneiger nous.
Rebonjour et re-bienvenue à tous et à toutes. Vous écoutez toujours Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3. On était en train d'écouter Les Cadenas par Bleu Kérosène et on s'en va en économie, mais on va faire un petit segoué, si vous me permettez l'expression, avec notre segment de santé précédent, parce que Naïmé, tu as trouvé pour nous un article à propos de procréation assistée qui est un des sujets qui te tiennent vraiment beaucoup à cœur.
Oui, en ce moment, là, aujourd'hui, on parle du conflit entre le gouvernement et les cliniques privées de fertilité. Ce qui arrive, là, c'est que le gouvernement refuse de payer à la hauteur de ce qu'on demande. Donc, elle demande entre 6 700 et 7 600 pour la fécondation in vitro, alors que le gouvernement offre 3 900.
Ouais.
Ouais, c'est très en dessous là, de ce qui est demandé. Ce qui arrive, c'est que alors que ce conflit-là, il y a certaines personnes qui atteignent la limite d'âge de 41 ans. Et donc, on a aujourd'hui...
Dans le fond, c'est 40 ans révolus à ton adversaire de 41 ans. Ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. T'as plus la subvention.
Exactement. Et même quelqu'un là, qui aurait déjà fait tout le processus, qui aurait acheté les hormones, pourrait plus bénéficier du programme et devrait payer...
Justement, 6 000, 7 000 c'est vraiment énorme. Puis justement, des personnes dont le processus a été ralenti par le conflit entre le gouvernement et ces cliniques privées-là, il doit y en avoir, ça doit exister. Et pour ces personnes-là, ça doit être dramatique comme situation.
Oui, parce que déjà, là, d'avoir acheté la médication, d'avoir fait le processus, c'est pas quelque chose de facile. Et du jour au lendemain, là, de prévoir des coûts supplémentaires, c'est encore moins facile. Ce qui arrive en ce moment, c'est que le gouvernement n'a pas démontré l'intention là, de négocier avec les cliniques, ce qui amène certaines personnes à craindre là, qu'on soit pas à la fin du conflit, ce qui pourrait amener d'autres personnes à vivre une situation similaire.
Bon, ben, c'est quoi la suite? C'est quoi qu'on peut s'attendre pour la suite? Est-ce que le ministre responsable a fait des annonces? Est-ce qu'il y a des plans? Ou est-ce que on s'attend vraiment à ce que les personnes qui sont concernées par cette situation-là doivent se résigner à payer de leur poche?
C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui risquent de devoir s'y résigner. Le gouvernement, en ce moment, n'a pas indiqué là, vouloir discuter. Il souhaitait simplement là, que les cliniques continuent d'offrir le service.
On va prendre ça pour du cash de la part du ministre Carman. On espère que les négociations vont continuer à bien se dérouler pour le bien des différentes familles. Simon, tu t'en parlais hors d'onde tout à l'heure. On a besoin de ça au Québec, justement, pour aider la natalité.
Oui, effectivement. Donc, je rappelle que le taux de natalité du Québec est en dessous du taux de remplacement naturel, qui fait en sorte que, éventuellement, on n'aura pas assez de nouvelles personnes et donc de personnes qui entrent au marché du travail pour remplacer ceux et celles qui partent du marché du travail. Et donc, ça, c'est problématique parce que ça aggrave une pénurie de main-d'œuvre que, je rappelle, existe déjà. On a une grave pénurie de main-d'œuvre. Et donc, c'est une mesure qui pourrait permettre éventuellement à minimiser ou au moins à réduire la pénurie de main-d'œuvre par un tout petit peu.
Oui, effectivement. Et cette pénurie de main-d'œuvre, une de ses causes, justement, c'est le départ de beaucoup, beaucoup de boomers à la retraite. On est présentement dans les contre-coups de cette diminution du taux de la natalité. Donc, on voit déjà les conséquences néfastes de ça. C'est sûr, on va espérer que... on réussisse à en sortir avant que les bébés nés aujourd'hui deviennent grands. Là.
Oui, ce qu'on voudrait pas voir, c'est surtout que la fécondation in vitro devienne plus subventionnée, finalement.
Oui, effectivement, on veut qu'elle reste accessible, non seulement pour les personnes qui ont des problèmes médicaux, mais également pour toutes les familles homosexuelles, pour toutes les familles queer de genre. C'est essentiellement la seule manière une des seules manières qu'ils ont de fonder une famille. Donc, ces services-là doivent continuer à être subventionnés, justement, pour toutes ces personnes-là, entre autres. On va continuer en économie parce que, Simon, on a une prévision d'une hausse pouvant aller jusqu'à 2 % des taux d'intérêt par la Banque du Canada. Qu'est-ce que ça veut dire?
OK, donc premièrement, il faut se rappeler du fait qu'on a le problème de l'inflation. Actuellement, tout coûte plus cher. Les personnes peuvent le voir à l'épicerie, bien les prix de logement, les loyers, tout augmente. Et c'est tout simplement parce qu'il y a trop d'argent ou de capitaux dans le système économique. Donc, une hausse des taux d'intérêt, quand on rend le capital moins accessible, cela rend les prix plus difficiles et donc cela diminue les montants d'argent qui sont disponibles dans l'économie, qui va, on l'espère, freiner ou diminuer la pression à la hausse des prix. Donc, les taux d'intérêt qui augmentent vont avoir une conséquence. Il est certain que, par exemple, ceux qui ont des hypothèques, par exemple, pourront le voir également. Ceux qui ont des dettes tout court le verront également parce que les taux d'intérêt pour les personnes qui ont des dettes vont également augmenter. Ça, c'est certain. Mais il faut se rappeler que cette mesure-là est nécessaire pour freiner l'inflation qui a également, qui crée des dommages collatéraux. Je rappelle par exemple que les personnes âgées qui ont des retraites à fixe sont plus vulnérables à une hausse des coûts.
Oui, par exemple, ici au Québec, ici à Québec, tous les fonctionnaires à la retraite, c'est des personnes qui ont des retraites à un taux d'inflation fixe à 2 ou 3 % par année. En ce moment, on parle d'un taux d'inflation, un indice des prix à la consommation qui, de décembre à décembre, a augmenté de 4,8 % sur une année. C'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Donc, ce que je comprends, si j'essaie de résumer ce que tu es en train de dire, c'est que, Simon, c'est que oui, les hypothèques vont augmenter si vraiment le plus gros impact de cette hausse des taux, sauf que ça va faire diminuer peut-être un petit peu l'inflation sur, mettons, l'épicerie, le pétrole, et donc on verra une espèce de un transfert dans le budget, moins d'argent qui devrait aller à l'épicerie, mais plus d'argent qui devrait aller sur l'hypothèque.
Effectivement. Ça, c'est une façon de le voir.
Oui. Donc, on va espérer que ce sera suffisant pour permettre à plusieurs familles de respirer. C'est sûr que ceux qui sont le moins bien pris dans cette histoire-là, c'est les nouveaux acheteurs, les personnes qui se sont achetées des nouvelles maisons, qui ont grandement emprunté. Ces personnes-là risquent de voir leur carte de crédit commencer à être loadée assez rapidement. Et une des solutions pour ça, selon le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, c'est un chèque allant jusqu'à 400 $ par famille qui devrait être distribué automatiquement d'ici à compter d'aujourd'hui, à compter du 24 janvier. Mais ça, Simon, je me pose la question très honnêtement. Tu disais qu'une des raisons pour lesquelles il y a de l'inflation présentement au Québec et au Canada, c'est parce qu'il y a trop de capitaux dans l'économie. Est-ce que injecter autant d'argent dans l'économie, on parle d'environ 3,3 millions de Québécois qui devraient recevoir environ 400 $ ou en fait jusqu'à 400 $. Donc, on parle d'une mesure au coût de quelques centaines de millions de dollars, presque même 1 milliard de dollars. Est-ce que cette mesure-là, ça va avoir un impact réel sur l'économie ou est-ce que ça va plutôt continuer à nourrir l'inflation?
Ben, il faut se rappeler du fait que ceux et celles qui reçoivent de l'argent sont ceux et celles qui ont des revenus plus faibles. Donc, c'est pas toute la population qui aura droit à ces transferts. Et donc, idéalement, l'idée, c'est de transférer de l'argent à ceux qui ont des revenus plus faibles pour qu'ils puissent être quand même capables d'acheter leur épicerie, etc., tout en évitant de, effectivement, mettre trop d'argent dans le système, parce que, je rappelle, on limite cette mesure aux personnes aux revenus faibles. Et comme ça, on va améliorer la vie de ceux qui sont plus démunis. Et on va également ne pas mettre trop d'argent et donc trop de pression de la hausse des prix parce qu'on ne cible que la partie de la population qui est vraiment stressée, on va dire, en ce qui concerne leurs finances. Les autres, par exemple, eux, ils vont pouvoir, avec des revenus plus élevés, trouver ou réallouer certaines dépenses, comme tu disais effectivement, dans leur budget, pour quand même prendre le coup. Donc là, on aide des personnes qui ne peuvent pas faire ça. Et l'effet sur l'inflation, bien qu'il y a toujours un effet, sera, on va dire, très petit.
Bon, mais merci de nous rassurer par rapport à ça, Simon. On va prendre une petite pause musicale ici à Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3, et on vous revient tout de suite après avec des nouvelles environnementales et internationales. On jase entre autres de nickel dans Limoilou. À l'antenne de Chiz 94.3 pour Un Fort dans le Midi, votre quotidienne d'actualité en compagnie de Guillaume Bédard, Naïmé Ramalia ainsi que Simon Grel. Et on s'en va en nouvelles environnementales tout d'abord parce que on a deux nouvelles assez importantes, en fait trois nouvelles assez importantes là-dessus aujourd'hui. La première, c'est que le gouvernement du Québec prolonge les projets pilotes sur la consigne. Donc, on avait 7 projets pilotes répartis dans différentes municipalités du Québec pour améliorer la consigne, le système de consigne, qui est le système où on paye un certain montant supplémentaire sur chaque contenant consigné, montant qu'on va recevoir ensuite chaque fois qu'on les rapporte à l'épicerie. On parle des dizaines de canettes ou de bouteilles en plastique. Eh bien, on parle de projet pilote pour simplifier cette consigne-là. Une seule machine pour tous les contenants. Donc, ces projets pilotes-là vont être prolongés. On veut avoir plus de données, plus de temps pour les étudier avant de décider si ces projets-là vont être remis à la grandeur du territoire québécois. On se déplace également en Gaspésie, la cimenterie McInnis, qui est un des plus grands pollueurs au Québec. Je pense que c'est le deuxième plus grand pollueur au Québec au total, qui est encore dans l'eau chaude pour une histoire de poussière mystérieuse. Donc, on a des cas d'une vingtaine de véhicules qui se font envoyer, se faire nettoyer aux frais de la compagnie au garage du coin parce qu'ils sont recouverts d'une poussière qu'il est impossible de faire partir à l'eau. C'est une poussière qui est extrêmement corrosive, qui peut abîmer la peinture de l'automobile. On se doute que s'il y en a assez pour recouvrir des autos, il y en a assez pour être respiré par la population du coin. La cimenterie McInnis dit ne pas avoir conscience de quoi que ce soit, dit que ses installations fonctionnent à merveille, qu'il n'y a pas eu de bris. Cependant, les résidents n'ont toujours pas de confirmation de qu'est-ce qu'est cette poussière, de quoi est-ce qu'elle est composée. Les enquêtes du ministère de l'Environnement traîne. On a eu une première enquête qui a été partie à l'été 2020, la première fois qu'on a vu ces poussières-là, et elle n'est toujours pas résolue. On a dans l'article du Journal de Québec, Journal de Montréal, qui est d'ailleurs écrit par Anne-Caroline Desplanques, on a dans cet article-là une théorie qu'il s'agirait de poussière de clinker, qui est essentiellement la deuxième pire poussière possible. La silice cristalline est au deuxième rang dans le classement des décès causés par des poussières toxiques, juste après l'amiante. Donc, c'est pas de l'amiante que les résidents de Port Daniel Gascon respireraient. Ce serait plutôt de la silice cristalline. C'est presque aussi pire. Donc, mais on n'a aucune confirmation présentement. On n'a aucune enquête du ministère de l'Environnement qui a porté fruit jusqu'à date. On a uniquement ces rapports de citoyens qui ont été donnés sous le couvert de l'anonymat parce qu'ils ont peur de représailles, particulièrement de représailles de la part des citoyens qui travaillent à l'usine et qui ont peur de voir l'usine être fermée pour des raisons environnementale. Plus proche de chez nous, à Limoilou, c'est encore la qualité de l'air qui inquiète, mais c'est la quantité de nickel dans l'air qui inquiète beaucoup parce qu'on se souvient que c'est le port du Québec, c'est le port de Québec qui chambarde le nickel qui est miné à la mine Raglan dans le nord du Québec. Et ce nickel-là, eh bien, il est en quantité vraiment, vraiment, vraiment très grande. On parle d'environ 12 nanogrammes par mètre cube. Eh bien, la moyenne pour les villes ayant le plus haut taux de nickel dans l'air au Canada, la deuxième ville, c'est Victoria, en Colombie-Britannique, qui a 4 nanogrammes par mètre cube. Montréal en a 3. À Limoilou, on parle de 12. Et là, le gouvernement du Québec veut hausser les normes pour avoir une moyenne annuelle de 20 nanogrammes par mètre cube avec des pointes quotidiennes à 70 nanogrammes par mètre cube selon la direction de la santé publique de la capitale nationale. La justification pour la nouvelle norme n'est pas d'ordre toxicologique mais plutôt économique. Donc c'est vraiment pour permettre plus de chambardement dans le port de Québec. Ils disent que si et seulement si il y a des efforts de décontamination qui sont faits, des grands efforts de décontamination qui sont faits pour ne pas qu'il n'y ait aucun dépassement, pour que ces pointes quotidiennes-là arrivent une seule journée et que 24 heures après, on descende drastiquement en dessous de la moyenne annuelle, eh bien, ça pourrait être correct, mais c'est des conditions qui sont mises à l'approbation de la santé publique. Du côté du député solidaire de Jean Lesage, Sol Zanetti, on parle justement du fait... En fait, il a envoyé une lettre au ministre de l'Environnement déplorant que les citoyens n'ont pas suffisamment de temps pour déposer leur plainte au BAP qui devrait être tenu aux consultations citoyennes, simplement parce que le ministère de l'Environnement ne leur donne pas les dossiers, ne répondent pas très rapidement à leur demande d'accès à l'information. Donc, le député de Jean Lesage, Sol Zanetti, demande à ce qu'on repousse la date limite de consultation à 45 jours après avoir répondu à toutes les demandes d'accès d'information aux citoyens. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. On se rappelle que le maire de Québec, Bruno Marchand, lui aussi veut faire une consultation des citoyens. On va terminer notre émission en se déplaçant à l'international. Simon, tu es un petit peu plus expert que moi quand même en relations internationales. La crise en Ukraine ne s'essouffle pas, c'est ça qu'on apprend dans les journaux ce matin.
Oui, bien effectivement. Il faut se rappeler que cette crise existe actuellement depuis 2014. Cette crise a commencé quand une administration pro-russe en Ukraine a été renversée par un soulèvement populaire et donc remplacée par une administration, on va dire, plus européenne, plus pro-occidentale, et donc qui a décidé de changer le paradigme. Et bien sûr, la Russie, qui a normalement exercé une influence assez importante dans ses juridictions, c'est-à-dire l'Ukraine et l'Europe de l'Est de manière plus générale, a décidé donc d'intervenir et donc actuellement d'envahir le pays. Ils ont, je rappelle, annexé la Crimée de façon illégale, qui est une partie du territoire ukrainien qu'ils ont occupé et qu'ils occupent encore aujourd'hui. Et également, ils ont appuyé des forces pro-russes qui sont basées dans l'est de l'Ukraine, dans une région qui souhaite presque devenir indépendantiste de l'Ukraine, qui est très, on va dire, pro-russe. Et donc, ils exercent une influence importante à la fois dans les régions qu'ils ont actuellement occupées et dans des régions où ils appuient des groupes militaires. Et il faut se rappeler qu'actuellement, la Russie a à peu près 125 000 soldats massés à la frontière ukrainienne, en moins de 60 km des frontières ukrainiennes. Donc, il y a un danger réel que, par exemple, le président de la Russie demande à ces forces-là d'intervenir. Il semble qu'il souhaite mettre la pression sur l'Ukraine afin de pouvoir les encourager de ne pas s'orienter plus vers l'Europe et vers l'Occident. Et donc, il souhaite vraiment les menacer. On est presque faire une espèce de chantage.
Oui, effectivement, c'est pas la menace la plus subtile de tout l'État, avoir environ 100 000 troupes postées à la frontière. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que l'OTAN va laisser la Russie faire au risque d'escalader les tensions?
Je prévois une escalade des tensions étant donné que l'OTAN ne peut pas accepter que la Russie dicte ses politiques étrangères. Et donc, malheureusement, il semble qu'il y aura au moins une certaine tension pour un petit bout. Et c'est sûr qu'il y a des rencontres diplomatiques où on essaie de régler les enjeux, mais ben, il reste à voir à quel point ces rencontres diplomatiques vont être efficaces. Et là, on ne peut pas savoir d'avance si des rencontres diplomatiques vont régler ces différends.
Le mot d'ordre, encore une fois, c'est prudence. Merci beaucoup, Simon, pour tes analyses aujourd'hui.
Merci.
Et merci beaucoup, Naïmé, d'avoir été avec nous toute la journée, tout le midi.
Ça fait plaisir.
Et merci beaucoup à toi, cher public, de nous faire confiance pour tes informations à chaque jour. C'était Un Fort dans le Midi, ta quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Tous les mardis à 10h, écoutez Pensez-y bien avec Juliette et Catherine sur les ondes de Chiz.
Une émission pour les curieux, pour les connaisseurs, pour les débutants. Bref, une émission pour tout le monde. À chaque semaine, on découvre et on décortique un sujet.